mode d'emploi.
Bonjour, donc bienvenue sur Mode d'emploi, la séquence secret de fabrication tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Vous êtes bien sur 106.3 FM, radio fréquence Paris pluriel, www.rfpp.net pour ceux qui nous écoutent sur le net. Alors, comme d'habitude, lors de ces séquences, la ligne téléphonique est ouverte. Vous pouvez téléphoner au 01 40 05 06 10 pour intervenir à l'émission. Voilà, et nous allons parler aujourd'hui pas mal d'auto-organisation à différents niveaux. Alors, avec une petite, un petit retour sur des conversations que nous avons eues lors de précédentes émissions, nous allons rapidement ensuite venir au sujet qui est la sous-traitance. Et oui, nous avons déjà parlé de sous-traitants, mais là on va étudier ça de manière un peu plus rapprochée, notamment en parlant de grèves qui ont lieu chez des sous-traitants de grands groupes. Voilà, alors donc les invités ce soir, donc nous avons Ludo.
Bonsoir.
Ouais, Ludo, qui est que les habitués de l'émission connaîtront bien. Ensuite, nous avons nos amis du comité de soutien à la lutte des honnêtes. À vous.
Donc Flora, militante du NPA.
D'accord. Damien, militant NPA aussi.
D'accord. Et donc vous êtes déplacé sur le piquet de grève de l'entreprise Honnête, c'est ça? Et qui sont basés, qui ont cette particularité d'être où, les salariés d'Honnête qui étaient en grève?
Ils sont dans le secteur Paris-Nord, donc de la SNCF, une étoile et gare. Mm-hmm. Donc Saint-Denis, tout ce secteur-là.
D'accord. Donc on reviendra avec plus de détails sur la grève des salariés d'Honnête. Mais je voulais commencer cette séquence en causant avec Ludo d'un débat que nous avions eu sur une autre émission, celle du
8 décembre.
Du 8 décembre, c'est ça, dans le cadre de Mode d'emploi.
Version attaque.
Hein, c'est ça, avec les amis d'attaque. C'était sur la révolution russe, hein, le centenaire de la révolution russe. Et donc, Ludo, toi, tu avais remarqué quelque chose au sujet donc de l'histoire de la révolution russe, comme elle était vue.
Absolument, c'est que moi, en suivant un peu les commémorations, alors on peut discuter de ce qu'est une commémoration, hein, si c'est pas toujours un enterrement, mais au moins, dans cette commémoration-là, la modernité de la révolution russe apparaissait beaucoup dans les conseils des ouvriers, donc les fameux soviets, et en tout cas, il me semble que c'est là-dessus que, en tout cas, les organisations de gauche ont énormément insisté sur la capacité en l'occurrence des ouvriers de l'époque à s'organiser par eux-mêmes. Et je trouvais bon qu'il y avait une espèce de résonance par rapport à aujourd'hui où on est tous un peu, il y a un éclatement en fait, hein, du collectif de travail. Et dans quelle mesure on est tous capables de recréer une forme de collectif à travers effectivement des organisations syndicales, mais pas que. Ces organisations syndicales fonctionnent parfois de façon un peu verticale. Et je trouve que il y a à la fois tout un travail au présent bien sûr, mais aussi un travail pour redécouvrir peut-être les façons dont on s'organisait au 19e siècle et même avant, pour arriver évidemment à un peu et aussi un travail de diffusion, hein, de cette mémoire et de transmission de cette mémoire.
Mmh. Et donc ce qui t'a marqué, c'est le discours, hein, c'est un rebours en fait de ce qui éventuellement de précédentes commémorations où cette affaire était pas forcément au premier plan, c'est la redécouverte en fait des soviets.
Oui, alors absolument, oui, parce qu'évidemment, on a tous, évidemment, la révolution russe a traversé une période, comment dire, après la chute de l'Union soviétique, c'est une période noire, hein, où évidemment on est revenu sur toutes les atrocités de la période stalinienne, mais évidemment on établissait une filiation avec Lénine et puis avec voilà, et donc on a beaucoup plus insisté sur la notion de petits groupes, de petits partis qui avaient décidé de grosso modo, hein, c'est ça qui a influé sur le cours d'événements, qui a réussi un espèce de mini coup d'État. Et c'était évidemment une lecture notamment qu'on trouvait dans le livre noir du communisme.
Oui, donc ça, livre
voilà,
noir, ouais.
Voilà, donc tout le monde évidemment, les gens informés savent aussi ce qu'il en est, et on a effectivement alors c'est difficile à dire, mais peut-être qu'il y a un travail d'autopsie à faire aujourd'hui qui commence sur l'histoire, hein, tout simplement, disons, de l'Union soviétique et de ces échecs. Voilà, peut-être qu'il... Alors peut-être qu'il est temps aussi de commencer à se réinvestir sur la question.
Ouais. Alors effectivement, la tonalité était assez libertaire lors de cette discussion, mais c'est vrai que on met plus ces temps-ci l'accent sur éventuellement peut-être un malentendu qu'il y a eu entre on va dire le parti bolchevique et les soviets, c'est-à-dire que sans justement faire de passerelle directe entre la politique du parti bolchevique et le stalinisme, hein, il y a quand même il y a des ouvrages, hein, chez Arnweiler par exemple, Oscar Arnweiler, qui a écrit sur les soviets, ça date un peu maintenant, hein, il a écrit ça dans les années 60-70, il notait que ils y avaient pas vraiment cru en fait. Aux soviets, c'est-à-dire qu'ils étaient très, ils étaient très désireux de se lier avec eux, avec les soviets, mais ils n'ont pas soutenu la démarche jusqu'au bout.
Ouais, je trouve l'ironie de l'histoire, c'est qu'au fond est devenue très péjorative la République des soviets, mm-hmm. et non pas l'Union soviétique, hein, mais c'est bien les conseils ouvriers, hein, qui gardent une forte tonalité, alors qu'au départ, en définitive, les bolcheviks se sont raccrochés à l'idée assez tardivement.
Oui.
Ça a été leur force, hein, c'est-à-dire de comprendre et d'utiliser en fait les soviets avec la double légitimité qu'il y avait au moment de la révolution russe entre le pouvoir entre guillemets légal mais très très peu représentatif issu de la révolution de février et puis le soviet de Petrograd, et d'utiliser parfaitement cette double légitimité pour le mot d'ordre de Lénine, je crois qu'il n'est pas encore, il n'est pas encore en Russie, c'est tout le pouvoir aux soviets, et d'avoir compris l'aspiration, en tout cas des ouvriers de Petrograd pour effectivement un changement et surtout un aboutissement de leurs revendications sociales. Donc voilà, et effectivement, le fait qu'effectivement très très vite quand même les conseils ouvriers soient j'allais dire noyauté, mais c'est peut-être un peu fort, mais quand il y a des représentants officiels des partis bolcheviques, mencheviques et SR leur soient associés, et que très progressivement, eh bien, la direction leur soit progressivement confisquée, et qu'il y ait une recentralisation. Et c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'après chaque révolution, il y a aussi l'exemple de la Révolution française, y a-t-il toujours une recentralisation, finalement, du pouvoir exécutif, aboutit effectivement à... Et puis la guerre civile, et pour des tas de raisons. Donc, aboutit effectivement à ce que le pouvoir des conseils ouvriers, quelles étaient leurs limites, par ailleurs... voilà, je crois que peut-être que la politique de Lénine n'était peut-être pas aussi conciliariste qu'on l'aurait dit.
Ouais, ça c'est une possibilité, mais on avait vu aussi que, enfin, le problème des conseils, de manière générale, c'est qu'ils sont forts en défense. Très souvent, ils sont capables de défendre des positions. Ça commence dès un piquet de grève, dès une assemblée générale. Souvent, ils peuvent porter des revendications, mais quand en face le pouvoir s'effondre. Ils prennent le pouvoir, mais après, quand le pouvoir revient, parce qu'il y a forcément la nature à horreur du vide, ils sont assez faibles pour se défendre contre cette verticalité qui revient. C'est très souvent le cas, c'est-à-dire que il y a une phase ascendante de prise de force et de prise de pouvoir qui finit quasiment par donner les pleins pouvoirs. On va dire à l'Assemblée générale des travailleurs, au Conseil, voilà. Et d'autant plus quand l'offensive est efficace, elle s'effondre de l'effondrement de l'adversaire. Alors, mais ça peut être que temporaire. Et quand c'est temporaire, il y a un retour de bâton qui peut être assez violent.
Alors, étrangement, c'est vrai qu'il y a une faiblesse structurelle qu'on a du mal à analyser si on participe pas. Voilà, c'est effectivement le fait que le Conseil ouvrier ne parvient pas à être son propre exécutif. Ou très difficilement, c'est-à-dire qu'à force de tirer sa légitimité effectivement de la base, éventuellement de créer des commissions, il semblerait de refuser en fait un organe permanent, plus ou moins permanent. Il semblerait que les prises de décision rapides dans des périodes de crise soient compliquées et qu'en plus elles soient rendues publiques. En tout cas, c'est une des leçons, hein. Il y a une espèce d'impuissance aux gens qui sont assiégés et qui n'agissent pas en quelque sorte. À choisir la bonne décision et donc si on était
et à la faire exécuter, parce que t'as dit exécutif, et c'est vrai que c'est souvent le problème, c'est souvent un défaut d'exécution qui fait qu'ils se font prendre de vitesse en fait par des structures plus à même de bah de prendre des décisions et elles de les faire exécuter.
Ouais. Alors dans le langage capitaliste, on dirait la capacité managériale, vous voyez. Et
toi tu sors.
Voilà.
T'as utilisé un gros mot à l'émission là.
Qui n'a bien entendu rien à voir pour être clair, hein, puisque voilà, la capacité managériale, c'est bien de demander aux salariés toujours plus et voilà. Mais non mais on rigole, mais enfin je rappelle que ces derniers temps les grands systèmes enfin qui fonctionnent bien aujourd'hui sont des dans le capitalisme,
hein, ouais, ouais.
Les grands managers capitalistes sont des systèmes ultra autoritaires.
Ultra autoritaires
comme la Chine.
Non mais c'est vrai. Et cela dit, bon, juste avant de passer à notre sujet, aux travaux pratiques justement sur l'auto-organisation, hein, parce que c'est ça va être le cœur de l'émission. Il y a un dernier point, c'est il est possible aussi que la révolution des soviets, hein, comme le conseillisme de l'époque, soit arrivée au pire moment possible en fait pour devenir une réalité, parce qu'au même moment, l'État futur État totalitaire était en train de terroriser avec de manière très pointue justement le management. C'est à cette époque-là que c'est vers cette époque-là que Burnham, qui est un penseur américain, écrit ses ouvrages sur la société du management, la société des managers en fait, le pouvoir des managers, et il théorise et il explique que la montée de la puissance d'État plus la montée des groupes capitalistes faisait qu'il y avait une caste qui apparaissait qui était entièrement tournée vers la direction, hein, et vers la domination. Et qu'elle était en train de prendre un pouvoir considérable. Alors c'est marrant parce qu'il écrivait ça à un moment où des grands modèles. Alors on avait des modèles totalitaires, on avait des modèles autoritaires, on avait le modèle soviétique entre guillemets parce qu'il y avait plein de soviétiques à l'époque, mais qui était effectivement des systèmes de gouvernance par en haut très efficaces. Et qui étaient à la pointe de leur efficacité parce qu'ils avaient toutes les énergies dont on sait aujourd'hui qu'elles sont non renouvelables à leur disposition pour faire exécuter ce qu'elles avaient à faire. Donc c'est on peut dire qu'il y a peut-être un malentendu dans l'histoire. Le rendez-vous a été raté avec l'émancipation parce que bah, justement l'ennemi était au sommet de sa puissance.
Et puis il y a autre chose aussi qu'il faut quand même préciser, c'est que malheureusement le phénomène des conseils arrive dans un moment où de fait l'État se désagrège,
oui.
Et donc il arrive dans un contexte de crise aiguë, et parce qu'on observe la même chose en Allemagne donc un an après, hein, et d'ailleurs ce sera la commémoration en 2018, hein, du centenaire de la révolution spartakiste, et on a ce problème là, c'est-à-dire que les gens tout d'un coup se mobilisent, c'est-à-dire prennent conscience d'un certain nombre de choses et donc prennent aussi conscience qu'ils peuvent changer les choses. Et donc on arrive dans des circonstances qui deviennent de fait contraintes. D'ailleurs, dans le cas allemand, effectivement, le traité de Versailles impose autant de rémunération d'amende possible. Et il y a en face un pouvoir qui, en tout cas, joue parfaitement. Le pouvoir bolchevique a parfaitement joué aussi de la contrainte de la guerre civile pour mettre les conciliaires. Donc c'est compliqué parce qu'effectivement les gens s'impliquent un peu tard aussi et
oui, mais il faut alors juste peut-être encore un dernier point et après on va clore, c'est aussi le moment où il y a vraiment une option des directions social-démocrates vers justement plus le management directorial et la réaffirmation d'un État fort. Plutôt que de laisser la main, c'est quand même, enfin, la révolution spartakiste est écrasée par les sociaux-démocrates allemands, et en même temps, la révolution bolchevique soviétique est dénaturée dans un premier temps avec les meilleures intentions du monde, mais après avec des intentions de pire en pire par le parti bolchevique qui change, qui en plus change pour en son sein lui-même réaffirmer. La domination, l'autorité, etc. C'est-à-dire que le parti bolchevique qui liquide réellement, on va dire, toute forme de révolution n'est pas le même que celui qui porte les soviets au pouvoir.
Alors, on pourra toujours parler de la pratique autoritariste russe, je sais pas. Mais en tout cas, concernant l'Allemagne, enfin, pour dire ça en langage populaire, on appelle ça la gauche fait le boulot de la droite.
C'est
à la fin, elle perd les élections au profit de la droite, et c'est exactement ce qui s'est passé. À bon entendeur.
Ah, ça me rappelle d'autres exemples dont nous pourrons parler. On va revenir au temps présent parce qu'il y a un lien entre tout ça, c'est-à-dire que on peut partir du postulat dans cette émission, puisqu'on l'a vu très souvent, que dès que les ouvriers et les prolétaires décident de prendre leurs affaires en main et de lutter contre des ignominies qu'on veut leur imposer ou récupérer un peu de marge de manœuvre, ils se rassemblent. Ils se rassemblent en assemblée générale, ils se rassemblent en piquet de grève, et généralement, on se retrouve avec des formes qui sont pas très éloignées d'une forme de conseil, même si les objectifs peuvent être tactiques et limités. Mais est-ce qu'on n'a pas là quelque chose, on touche pas à quelque chose du doigt, des formes naturelles d'organisation du prolétariat quand toutes les autres lui sont arrachées et il trouve ces formes, on va dire, les plus spontanées, mais efficaces. Et on va voir qu'elles peuvent être efficaces, puisqu'on va parler d'une grève qui est quand même réussie. Hein, je le dis tout de suite, je déflore le sujet, je spoil et tout, c'est terrible. Mais effectivement, on va parler d'une grève efficace, hein, qui est celle des salariés d'Onet. Et donc, j'allais mettre une pause musicale, mais on va pas résister à la tentation de se lancer dans le sujet. Alors, qui veut nous raconter brièvement. Alors attention, c'est une histoire courte puisqu'on va redévelopper après. Mais là, on va rester sur les faits. Qui veut nous raconter brièvement l'histoire des salariés d'Onet et de leur retentissante victoire sur des très grands groupes, comme on va le voir, c'est le sujet de l'émission.
Bah écoute, je peux essayer déjà de poser un peu les bases. Après, on peut rentrer plus
bien
en
sûr.
Détail. Mais déjà pour les points importants, déjà on peut dire tout de suite que c'est une victoire et que c'est vraiment quelque chose qui ressort de cette grève, parce que ce sont des travailleurs donc de la sous-traitance, donc qui sont tous des travailleurs précaires parmi les précaires, qui sont issus de l'immigration, beaucoup de femmes. Avec il y en a qui savent pas lire et écrire le français, enfin je veux dire on part vraiment de cette couche de des travailleurs précaires qui est vraiment qui a obtenu cette victoire contre le patronat français. Donc je pense qu'on peut le dire direct.
Voilà, ça, voilà, une victoire contre le patronat français. On va rentrer dans les détails des goodies obtenus plus tard.
Donc
avant que tu écoutes, on a déjà parlé d'Honnête, les malhonnêtes à cette émission. Hein. Alors je rappelle quelques petits exemples. Donc il y a eu grève à la Bibliothèque nationale de France. C'était Honnête ça ou TFN?
Je crois que c'était honnête.
On a eu l'action de quelques camarades de l'inspection du travail pour sauver leur femme de ménage que Honnête voulait voir déménager, alors qu'elle était, on était tous très contents qu'elle soit là. Donc on l'a soutenue, elle est restée avec nous. Donc Honnête, et on a d'autres cas effectivement de syndicalistes du nettoyage qui sont venus nous parler des pratiques frauduleuses d'Honnête. Et donc là, encore une fois, ils entrent dans le décor. C'est justement il me semble, une des raisons pour lesquelles tout ça a démarré, c'est qu'il y a Honnête qui venait fourrer ses sales pattes là où il devait pas.
Exactement, parce que donc la SNCF emploie des sous-traitants pour tout ce qui est nettoyage et ils changent tous les 5 ans de sous-traitants, ce qui permet de redealer les contrats, de revenir sur les acquis surtout, parce que au fil des années, il y a des acquis des travailleurs. Et en plus de ça, d'essayer de venir encore casser les conditions de travail, et notamment ce qui a fait partir donc les grévistes, ce qui les a fait se mettre en grève, c'était la clause de mobilité qu'on voulait leur imposer, qui faisait que ils avaient plus de poste fixe, ils avaient plus de gare fixe. Il faut savoir qu'ils ont fait grève sur 75 gares.
75 gares quand même.
Voilà, c'est un secteur.
C'est tout le secteur nord, c'est ça, de la SNCF en Île-de-France.
Tout à fait.
Ok.
Et 84 salariés sur 115 salariés, donc c'était très massif quand même.
Oui. Honnête récupère le marché sur des lots de gares, on va dire, ou des zones, ou sur toutes les gares de France.
Non, c'est par secteur en fait. D'accord. Donc là, c'est le secteur Paris-Nord qui regroupe 75 gares.
Ok, d'accord. Donc Honnête met la main sur ce marché en fait, suite au précédent prestataire. Voilà.
Ouais. Qui était SMP, le précédent prestataire. Donc là, Honnête récupère le marché. Veut imposer cette clause de mobilité, qui voudrait dire que les salariés, au jour le jour, peuvent être envoyés sur n'importe quelle gare sur le secteur Paris-Nord qui fait 75 gares, donc ils savent pas combien de temps ils vont mettre à arriver sur leur lieu de travail. Enfin, comment on organise sa vie dans ces conditions-là, c'est terrible. Et donc, voilà. Donc, le 2 novembre, ils se sont mis en grève. Et sur la première quinzaine de la grève, on va dire, Honnête refuse complètement de négocier, ils les écoutent même pas. Voilà, il les laisse, les laisse faire grève, voilà. Et ce qui va en fait une des dates qui est très importante, c'est la solidarité des cheminots.
D'accord.
Qui vont le 16 novembre. Donc il y avait une manifestation contre les ordonnances Macron. Et à cette occasion-là, ils se sont vus à l'intersyndicale d'avant la manif et ont décidé de faire une action. Après la manifestation, c'est-à-dire d'aller devant le siège de H. Régnier Honnête et de faire là une manifestation commune. Et en fait, ce lien-là, cette solidarité qui s'est faite entre les cheminots et ces travailleurs qui ne sont pas considérés dans leur convention jusque-là comme cheminots, puisqu'ils sont dans sous-traitants. Pourtant, ils travaillent dans les mêmes lieux où il y a les mêmes dangerosités, etc., les mêmes particularités. Qui va permettre de faire démarrer les négociations. Parce que là, quand Sudrail, il y a aussi FO et la CFDT qui se mettent dans le conflit, du coup, Achrenier va se dire, bon, bah, là, faut peut-être commencer à parler, quoi. C'est pas juste des précaires dans leur coin. Voilà, là, il y a des syndicats qui se mettent dedans. Voilà. Ensuite, dans la grève, en fait, il y a le 24 novembre, par exemple, au niveau, parce que ce qui a fait beaucoup avancer cette grève-là, c'est évidemment la solidarité qu'il y a eu autour, en dehors de la détermination et de l'organisation des grévistes. On en parlera.
Tout à fait.
On va en parler de ça, c'est qui était essentiel. Il y a aussi eu toute la solidarité, notamment, par exemple, la manifestation commune qu'ils ont fait avec les Holiday Inn.
D'accord.
Qui sont de l'hôtel Clichy, qui sont aussi en lutte contre leurs sous-traitants. Et évidemment, le comité de soutien qui s'est créé autour de cette grève, après que, en fait, la SNCF ait envoyé des intérimaires pour nettoyer les gares. Et donc, accompagné par la police, ça a donné des images assez choquantes, voilà. Enfin, et puis c'est assez traumatisant pour les grévistes. Et donc à partir de là, il y a un comité de soutien qui s'est créé, qui a permis énormément de visibiliser la grève, qui a permis aussi de créer une communication avec les usagers de la SNCF et qui se sont énormément solidarisés de leur mouvement, ce qui a aussi beaucoup aidé. Ce qui a permis de faire une des choses qu'ont apporté évidemment Sudrail et les cheminots quand ils sont mis dans le mouvement, c'est aussi le fait de créer une caisse de grève, parce que c'est des gens qui n'avaient pas forcément la culture de ces outils-là, et puis qui sont aussi... Il y a aussi une fierté, un côté on veut pas la charité. Nous on fait grève, on veut pas demander la charité des autres. On se débrouille. C'est pas évident de mettre ces outils-là qui pourtant sont essentiels dans les luttes en place. Et donc la solidarité aussi, enfin le comité de soutien a permis à travers des artistes, à travers les médias qui ont commencé à s'intéresser à l'histoire. Voilà, d'une façon un peu différente qu'au début, parce qu'au début les médias ils s'y intéressaient, mais plutôt du côté du patronat, en montrant les usagers qui pouvaient dire oh c'est sale, en mettant l'accent là-dessus, alors que c'était pas du tout la généralité de ce qu'on voyait. Et donc voilà. Ensuite, les négociations ont avancé, mais avec quand même
pas de tortue.
Oui, à pas de tortue, et puis quand même avec un mépris assez fort, hein, parce que ces grévistes qui touchent, pour une part, ceux qui sont à temps plein, qui touchaient 1,90€ de panier repas, donc
à temps plein.
ceux qui sont à temps plein.
Alors le panier repas, dans le nettoyage, les frais effectivement sont dégrévés à proportionnalité du temps partiel, du temps.
Voilà.
C'est-à-dire que quand on parle de la carte orange ou du panier repas, c'est complètement absurde, mais c'est à proportion du temps travaillé. Ça c'est la convention collective du nettoyage. Je ne ferai pas de commentaire sur la commande.
1,87 euros.
Bon, ça va. Voilà. Donc, mais là, c'est même illégal vis-à-vis de la convention. Parfait, c'est super. Ok, d'accord.
Voilà. Et ils demandaient 4 euros, donc. En matière de ce que leur a coûté au patronat cette grève et cette broutille d'avoir 4 euros pour manger, enfin, c'est complètement absurde qu'ils aient. Et ils ont commencé par proposer d'augmenter de 50 centimes leur panier repas par an pour arriver. Enfin, c'est n'importe quoi. Finalement, la SNCF aussi les a attaqués. Attaqués, en fait, et négociés d'un côté,
oui,
avec les grévistes en général. Et de l'autre côté, a commencé à attaquer les têtes, quoi, ceux qui apparaissaient le plus dans les médias, des grévistes. Et ils les ont convoqués en justice pour soi-disant occupation illégale de leur lieu de travail, alors que c'était absolument pas ça, parce qu'eux, ils étaient tranquilles dans leur local.
Ils disaient occupation illégale de leur lieu de travail, mais est-ce qu'ils disaient ça comme ça? Ils disaient occupation illégale de la gare, en fait.
Oui, de la gare.
Parce que l'argument sur le lieu de travail, c'était piégeux pour eux.
Bah, mais leur lieu de travail, c'est les gares.
Je sais bien. ça me semblait frapper du coin du bon sens. Mais ce que je veux dire, c'est... Je viens là-dessus, hein, juste, on en parlera, mais... Sur la question justement du sous-traitant, le lien se fait avec le donneur d'ordre, très souvent par le lieu de travail. C'est-à-dire que c'est pour ça que les donneurs d'ordre sont très frileux à admettre que le lieu de travail de leur sous-traitant est effectivement leur lieu de travail, parce que c'est généralement chez le donneur d'ordre. Donc ils osent même aller jusqu'à traîner les grévistes en justice.
Voilà, en leur demandant en les menaçant plutôt. D'une astreinte, d'une amende de 500 euros par jour d'occupation, donc, de leur local. Ce qui est 500 euros pour ceux qui sont à temps partiel, c'est leur salaire mensuel.
C'est ça.
Ils veulent leur imposer ça par jour. Donc, bon.
Oui, et c'est par personne, en plus.
Pour les 9 grévistes qui étaient attaqués, c'était par personne.
C'est ça.
Et du coup, évidemment, le comité de soutien, il y a eu le soutien d'Assa Traoré qui est venu devant le tribunal quand ils étaient convoqués, etc. Tout ça, on va en parler, a permis de...
Juste pour l'auditeur, tu peux dire qui est Assa Traoré ?
Oui, pardon.
Non, alors, juste pour l'auditeur, on attendra la fin de la pause musicale et on reviendra sur ce point.
D'accord.
Et là, on va finir la chronologie. Parce que que dit la justice bourgeoise, alors, finalement ? Elle est entièrement d'accord avec le patron dans cette affaire ?
Eh ben, en fait, elle a été prise de court,
oui,
la justice bourgeoise, parce que, entre-temps, les négociations, en fait, ont avancé parce que Honnête n'avait plus le choix. Ils voyaient que ça allait pas, en fait, ils allaient pas réussir. Le rapport de force n'était pas en leur faveur. Et donc, ils ont fini par donner quasiment tout ce que demandaient les grévistes, qui était plus que ce que demandaient les grévistes au début de la grève. Au début, c'était une grève juste défensive. Et avec l'arrivée des cheminots en soutien et les discussions avec les grévistes, c'est devenu une grève offensive où ils ont réussi à être tous... Mis sous la convention de manutention ferroviaire, qui est beaucoup plus avantageuse que celle du nettoyage. Comme les négociations, parce que bon, c'était la SNCF qui attaquait les grévistes et les négociations se faisaient avec Honnête, la SNCF étant le donneur d'ordre. Bon, ouais, ils se parlent entre eux, hein.
Oui, j'imagine.
Et donc, c'est arrivé à peu près en même temps. Donc ça, c'est la fin de la grève. Donc c'est vers le 14-15 décembre. La justice déboute complètement la SNCF, qui est, elle, condamnée à payer 500 euros à chaque gréviste qui a été attaqué en justice. Donc ça s'est complètement retourné contre elle.
Et tu peux juste dire les motivations de la justice, justement
Qu'est-ce qu'elle a dit précisément la justice bourgeoise?
Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est que, je sais pas exactement, mais on peut pas justifier qu'ils occupent illégalement parce que ils étaient pas présents dans les gares.
Mm-hmm. Ils empêchaient pas les cheminots d'entrer dans les gares, en fait. Ce qu'ils reprochaient, c'est qu'on voulait faire croire qu'ils empêchaient les cheminots d'accéder à leur lieu de travail. Mm. Il se trouve qu'en fait, ils avaient aucune preuve parce que tout simplement, c'était faux.
Mm. Et donc, ils occupaient leur local, le local syndical, non, leur local de vestiaire.
Voilà, c'est ça, c'est le local de vie.
Base de vie des nettoyeurs, mmh. en fait. Oui, d'accord, c'est un peu compliqué, là, pour la SNCF. Non, le problème de la SNCF était tout autre, c'est ce que nous verrons. Mais, les amis, il est temps de faire une pause, je vous dis pourquoi, parce que là, franchement, on n'a que des nouvelles atterrantes pour le patronat, alors les grèves gagnent, les grèves défensives deviennent offensives, les salaires relèvent la tête, la solidarité s'organise, et même la justice bourgeoise donne tort à l'employeur. Non, vraiment, là, il est temps de mettre en œuvre des solutions radicales. Heureusement, un ami à nous, dont l'oncle est un fameux bricoleur, nous a amené la solution à tous ces problèmes.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir... Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Et oui, c'est vrai, s'ils avaient disposé de la bombe atomique de l'oncle fameux bricoleur, ils auraient pu nettoyer les gares puisque la portée n'est que de 3,50 m. Donc, forcément, ça aurait été beaucoup plus facile. Malheureusement, donc, comme tout le monde le sait, la SNCF est sous-équipée et elle n'a pas pu faire face à l'offensive des grévistes. Mais voilà, en fait, ce seront des anecdotes amusantes, mais je crois que c'est plus important que ça. Donc, nous allons maintenant commencer à regarder un peu qu'est-ce que ça signifie, ce mouvement.
Oui, alors en fait, il faut savoir que c'est une grève très impactante et très touchante parce qu'en fait, c'est la grève de ces 84 salariés qui nettoient les gares, les quais, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est les petites mains invisibles des gares que nous, on emprunte tous les jours, que des centaines de milliers de passagers empruntent en Île-de-France tous les jours et qu'en fait, on ne voit pas, qu'ils sont complètement invisibilisés et qui font partie de cette sous-traitance invisible qui travaille dans des conditions très difficiles. Il faut savoir qu'en fait, quand le nouvel employeur prend le contrat et décide d'envoyer ses salariés dans n'importe quelle gare avec cette clause de mobilité où il faudrait la dernière minute pouvoir disposer d'eux dans n'importe quel lieu de la région de Paris Nord, c'est la goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase parce que c'est des travailleurs qui vivent dans des conditions très difficiles où en fait ils expliquent que par exemple pour économiser sur les frais de nettoyage etc, ils leur font récupérer des sacs poubelles par exemple, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de remplacer, c'est ce qu'on voit d'ailleurs souvent dans les gares, etc. C'est-à-dire qu'ils prennent avec leurs propres mains en fait les déchets qui sont dans les poubelles pour les mettre dans d'autres sacs avec tous les dangers que ça comporte de tomber sur des seringues, de tomber sur des objets qui peuvent les blesser. Et c'est aussi un travail qui est très dur au niveau des conditions de travail parce qu'ils ont même pas en fait de chariot par exemple pour déplacer les sacs poubelles. C'est-à-dire qu'ils portent tout eux-mêmes avec des cadences qui sont aussi très soutenues. Ils doivent aller d'une gare à l'autre. Enfin, il faut savoir que c'est vraiment un travail qui physiquement est déjà très très difficile, très très dur, etc. Il faut porter des seaux mm-hmm. pleins d'eau, en fait. Mm-hmm. Et du coup, cette grève, c'est ça. C'est ce qu'ils ont voulu mettre en avant aussi, c'était que c'était une grève pour la dignité. C'est que en fait c'est on en a marre en fait d'être ceux qui sont traités comme des moins que rien. Il disait un des mots d'ordre d'ailleurs c'était l'esclavage c'est fini. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs souvent et ce qui est intéressant dans les grèves de la sous-traitance en particulier en général, dans le nettoyage, mm-hmm. c'est que c'est des travailleurs qui relèvent la tête et qui disent il y en a marre de ces conditions de travail, on veut le respect, on veut être respecté, on exige des conditions de travail dignes et mm-hmm. le respect.
Mm-hmm. Et pour ça il faut se tourner vers le donneur d'ordre, parce que le sous-traitant ne peut pas tout. C'est justement là pour, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs. C'est pour ne pas pouvoir. Mais je voulais juste revenir là-dessus. On va repartir un peu en histoire, un peu dans de l'histoire. C'est ce que Macron vient de nous imposer là avec ses ordonnances, notamment avec toutes ces règles de dérogation des lois les unes aux autres et de possibilités d'accords dérogatoires. De plus en plus dérogatoires, plus la boîte est petite. d'ailleurs, c'est ça qui est assez important, et avec le moins en moins de garanties, plus la boîte est petite, c'est en fait, c'est un crime qui est commis là, parce que en réalité, il vient de relégaliser le premier délit à avoir été dénoncé comme délit dans les relations de travail, c'est-à-dire le marchandage, qui est en fait de sous-traiter spécifiquement pour obtenir le moins-disant social. Et ça, c'est un délit qui a été interdit. Même pas sous la Troisième, mais sous la Deuxième République en 1848. C'était la première des revendications des travailleurs quand ils ont pris la rue en 1848 et quand ils ont institué la commission du Luxembourg sur le travail. Ils voulaient la suppression à tout prix du délit du marchandage. Et même, c'est resté un délit, y compris sous Napoléon III. C'est-à-dire que ça n'a jamais cessé d'être un délit, alors plus ou moins bien réprimé. Hein, aujourd'hui, il est plutôt mal réprimé. Mais là, ce que Macron propose... c'est porte ouverte au marchandage, et c'est pour ça que en fait les salariés de la sous-traitance ont eu le nez creux. Ils ont bien senti que pour eux en tout cas c'était là l'attaque principale, c'était qu'il fallait absolument réinterroger ces relations de sous-traitance qui allaient dégrader encore plus qu'avant leurs conditions de travail. On revient donc sur Onet, qui ont tout à fait compris les enjeux visiblement et qui donc ont décidé de taper. Juste, je voulais dire, c'est forcer la SNCF à canner et forcer Onet à canner, ça se fait pas juste en occupant son local de travail. Pourquoi est-ce que finalement la SNCF a été et Onet ont été obligés de céder? Ça a été quoi la conséquence immédiate de la grève la plus visible?
Bah en fait, ce qui a été déterminant, c'est aussi tout le soutien dont cette grève a su s'entourer. Ou à partir du moment où ils ont décidé de se rendre visible, à partir du moment où ils ont manifesté auprès des cheminots dans la manifestation, par exemple, du 16 novembre, on en parlait, ils ont recueilli en fait le soutien de militants, d'habitants de Saint-Denis, etc., qui ont tout fait pour ensuite visibiliser cette grève. Donc nous, on fait partie du comité de soutien et d'ailleurs, on a mis même nous-mêmes 2 semaines à prendre connaissance de cette grève. Mmh. Et donc ensuite, on a tout fait pour lui donner de la visibilité en organisant des barbecues. Donc le soir, on avait appelé à plusieurs rassemblements pour donner de la visibilité, faire connaître cette grève. Donc c'était l'occasion de faire des tracts, d'aller imprimer des affiches, de les distribuer dans Saint-Denis, etc. Et puis c'est comme ça qu'en fait on a petit à petit en fait on s'est rendu compte à quel point cette grève touchait les gens par sa force, par le fait que c'était des choses complètement ignorées en fait de la plupart des gens, etc. Et petit à petit on a pu organiser comme ça un soutien, organiser une caisse de solidarité. C'est quelque chose qui a été vraiment central, la caisse de grève.
Il y a eu combien d'argent dans cette caisse
hein? Alors au total il y a eu jusqu'à 80 000 euros.
Ouais.
Donc c'est vraiment historique, enfin c'est énorme en si peu de temps, enfin de pouvoir récolter autant d'argent.
Et ça a été distribué au fur et à mesure aux grévistes, c'est ça?
Ça a été distribué en plusieurs fois, oui. Et donc c'était Sudrail qui avait organisé une caisse de grève en ligne, et puis il y avait aussi une caisse de grève avec la possibilité d'envoyer des chèques, etc. Ça a été un élément moteur à la fois pour organiser la solidarité, parce que c'était un vrai leitmotiv pour aller chercher le soutien. Ça permettait de parler de la grève, etc. Et en même temps, c'était aussi un soutien moral, parce qu'en fait, à chaque fois que les grévistes recevaient un chèque ou une motion de soutien, etc., pour eux, c'était on s'intéresse à nous, notre grève est quand même importante, etc. Et c'est aussi ça qui a fait que petit à petit, les médias se sont intéressés à la grève. Non pas pour seulement la criminaliser, parce qu'au départ c'était ça, au départ c'était France.
Qu'est-ce qu'ils disaient au départ? Allons-y, voyons, allez.
Au départ France 2.
Attention, âme sensible, bouchez-vous les oreilles.
France 2 a fait un reportage sur le piquet, il y a même eu un reportage de BFM TV.
Aïe.
Pour dire, regardez les poubelles qui s'entassent, c'est inadmissible, il y a des déchets partout dans les gares, pour criminaliser les grévistes et surtout pas parler de leurs revendications. Et montrer qu'en fait, les usagers de la SNCF étaient en danger, mis en danger par les méchants grévistes, parce qu'il y avait des déchets partout et que ça glissait, etc.
Ouais. Ce qu'ils voulaient pas admettre, c'est que la poubelle qui déborde, c'est un élément du rapport de force.
Voilà, tout à fait. Et surtout que la SNCF, en fait, elle, pour le coup, n'en avait rien à faire de mettre en danger ses propres usagers, parce qu'il aurait suffi qu'elle donne satisfaction aux revendications qui n'étaient pas non plus la mer à boire, et qu'elle a préféré maintenir en fait un rapport de force très, enfin une intransigeance vis-à-vis de la grève pour ne surtout pas céder, quitte à mettre en danger en fait effectivement les usagers qui voilà. Donc la première responsabilité de cette mise en danger, c'est celle de la SNCF,
et que les usagers ne voient jamais. Ceux qui vident les poubelles.
Non, bah les usagers, là, ils ont bien vu là qu'il y avait forcément quelqu'un qui devait le faire puisque ça se faisait pas. Non, mais ça, j'ai lu une interview de Oumu, qui était une des militantes du piquet, on va dire.
Une des figures,
ouais. Et qui disait, bah, nous-mêmes, ça nous a fait prendre conscience que sans nous, les gares, elles tournaient pas. C'est-à-dire que vu c'est pas des centaines de milliers, c'est des millions de personnes qui prennent les gares des gares de banlieue parce que en fait la SNCF beaucoup plus que le RER dessert un réseau beaucoup plus important de banlieue, et donc il y a énormément de gens qui prennent ces trains de banlieue hein qui dépendent de la SNCF. Donc ça fait des millions de gens qui mangent, jettent des papiers, circulent, etc. Et ça s'accumule à une vitesse prodigieuse. Il faut des gens en permanence pour nettoyer tout ça.
Ah oui, c'est vraiment essentiel. En fait, c'est un corps de métier qui est essentiel au fonctionnement des gares.
Ben oui.
C'est-à-dire que s'ils sont pas là, les gares, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Et donc, comme disait Flora, la SNCF, au lieu de tout de suite régler le problème, ce qui lui aurait finalement pas coûté très cher, a préféré maintenir
y compris en recourant à des pratiques illégales, parce que
y compris
il fallait surveiller les gares en fait pour les grévistes.
Alors,
c'est ça, hein.
Alors une des choses, si on rentre dans dans le vif du sujet, une des choses très importantes de cette grève, et qui elle pour le coup était là dès le départ, même avant le soutien, c'est l'organisation des grévistes. Mmh. Parce que quand ils ont décidé de se mettre en grève, c'était donc entre les agents du nettoyage, leurs chefs de secteur, etc. Ils se sont appelés sur 75 gares, ils se sont organisés. Mmh. Sur 3 gares, ils ont maintenu 24 heures sur 24 des rondes, justement pour éviter que la SNCF ou Honnête, en l'occurrence, envoie des gens nettoyer les gares.
Des gens, qu'ils allaient trouver comment ?
Voilà, des intérimaires, on connaît ces pratiques. Hein, et pourtant, ils l'ont fait. Donc ça, c'était... bref, j'ai retrouvé la date.
Plutôt vers le début. Hein. Dès le début, en fait. Enfin, le plus vite possible, ils l'ont fait, non ?
Non, c'était... Je sais plus.
Non, c'était d'accord. Au milieu de la grève.
Ouais, d'accord, au milieu de la grève. Oui.
Ouais, c'était
un point culminant,
c'était
quand même,
le 1er décembre. Après 2 semaines, après un mois de grève quand même. Donc là, ils ont envoyé des intérimaires accompagnés par la police pour nettoyer les gares. Et ensuite, 2 jours plus tard, ils ont envoyé, des intérimaires à Hermont-Aubonne. Cette fois-ci, comme il y avait eu la première répression que les grévistes avaient filmé avec leur téléphone portable, donc
répercuté.
Ça s'est su dans les médias militants, etc. Ça a circulé. Le comité de soutien, les cheminots ont parlé avec les grévistes de ça. Donc quand c'est arrivé la deuxième fois, ils ont immédiatement prévenu un militant Sudrail, cheminot, donc Anas, qui est allé donc à la gare. Il a pris la nouvelle, il a pris sa voiture, il était chez lui, il était minuit quoi, minuit une heure. Il a pris sa voiture, il a été jusqu'à la gare, il est arrivé. Il a mis en avant le fait que c'était complètement illégal hein, lors d'une grève de faire le travail des grévistes par des intérimaires. Non seulement déjà à la base...
illégal.
Ça, c'est illégal. Mais en plus, il y a la spécificité de travailler dans des gares où il y a des caténaires, où il y a des conditions de sécurité qui sont spécifiques. Et pour travailler sur ces lieux-là, Il y a un plan de prévention, c'est-à-dire qu'il y a une formation de tous les agents qui travaillent sur la gare, dont les agents de nettoyage, hein, pour la longueur des balais, pour pas qu'on puisse toucher une caténaire, etc. C'est des choses comme ça. Et donc, en fait, les intérimaires et la police, ils ont dû partir parce que, en fait, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas présenter de plan de prévention.
Le directeur de la gare, le directeur de l'établissement était là, en fait, il était venu pour faire accompagner la police. Il n'a pas été en mesure de présenter le plan de prévention des intérimaires qui étaient venus là nettoyer la gare.
C'est géré d'habitude. Oui, c'est ça. Eh ben ça c'est un point important parce que on peut penser que cette affaire des intérimaires, ça se joue dans énormément de situations de grève, énormément chez les sous-traitants aussi. Et là ils sont pris à leur propre jeu, c'est très compliqué parce que à force de délocaliser vers des sous-traitants, on se retrouve privé de toute main d'œuvre quand la grève survient et on ne peut pas réutiliser, ils ne peuvent plus réutiliser des forces de la SNCF pour débloquer la situation. Ça, c'est légal. On peut transposer ses propres salariés s'ils sont prêts à travailler ailleurs. Donc ça, en temps de grève, c'est possible. Mais la SNCF, elle a juste pas de réserve pour ça. Et donc, ils sont obligés de faire appel à des intérimaires, ce qui était légal pour les deux motifs que tu avais soulevés. De manière générale, c'est là où on voit l'intérêt d'avoir toutes ces interfaces. C'est-à-dire qu'on a plusieurs collectifs dans une seule lutte. On a le collectif des grévistes. On a, les syndicalistes qui les soutiennent, qui sont dedans et qui sont aussi autour et qui sont aussi des organisations syndicales amies, on va dire, de cette lutte. Et on a le comité de soutien de toutes les bonnes volontés qui sont prêtes à répercuter, soutenir, appuyer, apporter leur écho dans la caisse de grève, etc. Ça a donné un certain succès parce que j'ai cru comprendre que pas mal de gens s'étaient penchés dans le cadre justement de la bagarre pour redresser un peu la parole médiatique. Il y a eu des gens qui sont venus sur le piquet apporter leur soutien, si j'ai bien suivi. Vous avez quelques exemples?
Oui, tout à fait. Suite à la répression, il y a eu un comité de soutien qui s'est créé. Et auxquels sont venus participer. Par exemple, on parlait d'Assa Traoré, donc qui est la sœur de Adama Traoré, qui a été tuée par la police lors d'un contrôle en juillet 2016, qui est en lutte donc depuis pour avoir la justice et la vérité sur ce dossier, parce que la justice lui met beaucoup de bâtons dans les roues dans cette affaire.
C'est moins qu'on puisse dire. Oui, c'est toute la famille là qui est en ce moment en train d'être persécutée par la justice. Hein, faut le dire. Faut continuer à suivre et à soutenir la lutte donc de la famille Traoré, hein, parce que deux frères poursuivis, Assa Traoré qui est elle-même très surveillée, très etc. Donc effectivement, c'est une bagarre qu'il faut soutenir. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a eu une convergence un peu naturelle, en fait.
Alors, totalement naturelle, parce que c'était un moment assez émouvant. Donc, c'était avant... il y a une manifestation. Donc, le comité de soutien a organisé une manifestation le 9 décembre dans les rues de Saint-Denis. Et à partir de la gare de Saint-Denis. Et donc, Assa est venu sur le piquet de grève avant la manifestation, pour faire la manifestation. Il y a eu des prises de parole, elle a pris la parole et a dévoilé en fait que sa propre mère était une des grévistes de Achrenier Honnête, du secteur Paris-Nord, et elle était juste pas sur les piquets de grève parce qu'elle avait des problèmes de santé à ce moment-là. Et mais du coup là ça crée un lien, ça crée un pont qui à mon avis est essentiel pour la façon de penser les luttes, de penser les résistances, c'est que ça n'est pas qu'un problème de travailleurs, c'est aussi un problème de qui sont ces travailleurs qui sont issus de l'immigration, qui sont beaucoup de femmes, etc. Mais ils subissent, c'est des travailleurs qui subissent la même répression. C'est Oumou, je crois, qui disait à propos d'Assa, les mêmes policiers qui ont tué Adama, c'est les mêmes policiers qui viennent nous réprimer nous sur notre piquet de grève pour nous virer des gares.
Une explication, effectivement.
Voilà. Et
C'était une prise de conscience d'ailleurs au moment de la grève. C'était un point de basculement en fait, la répression dans la prise de conscience de ce que c'était la police aussi, la justice. C'était toute une école pour les grévistes eux-mêmes, quoi. Mmh. D'être confrontés.
Ils ont beaucoup appris.
Oui.
Ils ont énormément appris sur le fait que c'était souvent des gens qui n'avaient jamais mis le pied dans un commissariat, qui pensaient jamais être convoqués au tribunal. Enfin, c'est des gens. On a fait une fête à la fin de cette grève où tous les grévistes ont pu prendre la parole. Donc c'était l'occasion d'anecdotes. Fernande nous racontait que elle disait à son mari « Oh, je suis attaquée en justice
!» Alors, je vous coupe parce que je crois que j'ai un invité qui vient d'appeler, qui est un salarié d'OFS et qui donc je souhaitais faire passer en ligne. Et il est exactement dans le même sujet. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir, je dirais, conclure sur ça. C'est une grève en cours. Hein. Ok, je prends. Allô, Jamal ?
Oui, allô ?
Tu m'entends ?
Ouais, je t'entends, oui.
On t'entend tous ici, hein. Donc, n'hésite pas. Donc, bah voilà. Alors, Jamal, je vais faire vite. L'émission va toucher à sa fin, mais on a bien 5 bonnes minutes là pour que tu puisses nous faire l'exposé de votre lutte qui est en cours, hein. C'est ça. La bagarre à OFS est encore en cours.
Oui, la bagarre est bien en cours à OFS. Donc, avec environ 90 à 95% de participation, donc chaque mouvement.
Oui.
Donc je tiens quand même à rappeler que OFS est une filiale du groupe WFS.
C'est ça.
Et voilà, donc WFS qui est mondial. Donc nous, on est situé sur Orly, donc on est en sous-traitance en full en ligne pour les compagnies Transavia, Eglasur et Norvégienne.
Alors je résume, ça veut dire que quand l'avion atterrit et qu'il doit être entièrement ravitaillé, nettoyé, c'est vous qui vous en chargez sur la piste, c'est ça ?
Voilà, donc nous on se charge du ravitaillement, du placement de l'avion, du déchargement, chargement, l'accompagnement du passager, de l'arrivée jusqu'à son départ.
Ok. Alors, je te dis ça parce que le thème de l'émission, c'est sur la sous-traitance. On vient de parler de la grève réussie des salariés d'Honnet, hein, qui eux faisaient le nettoyage des gares et que donc on faisait un rapprochement avec ce qui vous arrive à vous. Comment vous comptez vous y prendre là ? Comment vous mettez la pression sur votre employeur ?
Bah là aujourd'hui, donc on met la pression en faisant des débrayages le matin de 2h30 au petit moment de pic, quand même parce qu'on a une compagnie comme Transavia qui est un low cost et qui essayent de rentabiliser ces avions. Donc ils ont plusieurs dizaines, plus de 20 vols entre 5h30 et 8h. Donc nous, on fait le débrayage entre 5h30 et 8h.
Là où ça fait mal ?
Là où ça fait mal, donc après 8h, donc c'est un peu calme. Donc nous, on reprend le travail, mais malgré ça, donc on travaille pas. Et l'après-midi, de 14h30 à 17h. Donc on choisit vraiment bien les moments de pic, là où il y a beaucoup plus de vols, pour essayer d'impacter le maximum possible.
C'est bien. Faut taper là où ça fait mal et il faut ménager sa force. Et alors,
voilà, depuis le 26, donc on est en grève, on a saisi, toutes les autorités compétentes. Mm-hmm. Et d'ailleurs, la société, donc, comme elle n'arrivait pas à subvenir au traitement des avions, à charger, décharger les avions en temps et en heure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs plaintes par rapport aux passagers qui ont attendu plus de 3h, 4h le soir pour récupérer leur bagage. Et donc, elle a dû faire appel à des salariés de la filiale WFS de Roissy, des intérimaires, pour remplacer les grévistes.
Toujours la même histoire.
Donc, on a tout de suite réagi. On a fait intervenir l'inspection des travaux à 2 reprises, qui a fait un courrier dans ce sens-là. Et donc, on a saisi le tribunal en TGI référé heure à heure. Et on passe mercredi matin à 9h30 pour le recours à l'abusif à l'intérim pour remplacer les grévistes.
D'accord. Vous comptez vous rassembler un peu devant le TGI ou...
Non, on va pas. Je pense pas qu'on va faire un rassemblement devant le TGI, mais on a déjà pris contact avec l'administration sur l'aéroport d'Orly pour faire une manifestation devant l'aérogare. Ça, c'est probable, ça va venir, je pense, dans la semaine, ça va se décomper et faire une manifestation avec l'ensemble des salariés. Et il y a aussi, on a sollicité toutes les organisations syndicales de toutes les filiales de WFS, donc Orly-Roissy. Une réunion s'est tenue hier donc qui sont dans le même sens que nous, donc ça risque par la suite de faire un mouvement commun entre Orly et Roissy à l'avenir.
Ah, bah écoute, on peut juste te le souhaiter. Alors l'émission va toucher à sa fin, mais je suis très content que tu aies pu passer à la radio. On va sur RFPP, on s'engage à continuer à donner des informations hein, venant d'Orly et venant de Roissy quand vous irez mille pieds pour que vous soyez relayé au maximum. Je te prendrai hors ligne après pour te passer des coordonnées pour contacter et faire populariser ta lutte. Ça marche ?
D'accord, merci.
Merci à toi. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Voilà, donc c'était une conclusion. Alors hélas, nous avons bientôt terminé.
C'était trop court.
Et oui, on croyait que ça allait être.
Il y a plein de choses à dire.
Il y a encore plein de choses à dire sur ces luttes.
Mais vous pouvez revenir.
Mais oui, bien sûr. on pourra revenir. Alors, je propose que on pourra faire éventuellement une deuxième émission cette fois-ci avec les salariés des boîtes concernées qu'on pourra faire dialoguer ensemble. Hein. Ça, c'est un objectif élevé que je me fixe. Voilà, donc on verra quand est-ce qu'on pourra faire ça. Et puis par ailleurs, ça montre bien l'importance de la sous-traitance comme enjeu et l'impossibilité dans les deux cas de quand même prendre à la gorge et le sous-traitant et le donneur d'ordre pour qu'il y en ait au moins un des deux qui paye. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'être venus.
Merci.
Bonsoir.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made.
Voilà, c'était donc Diana Krall sur Temptation. Ah, mais c'est encore le camarade Bob qui est en train de parler. Ouais, on a fait un coup d'état sur la radio, en fait. On a décidé de squatter les ondes et l'antenne. Bon, on a obtenu un petit rab pour faire une post-face à notre émission, ce qui est quand même exceptionnel et que donc on va pas s'en priver. On va revenir un peu sur la question donc de la sous-traitance et de la lutte. Et qui veut ? Allez, vas-y.
Ouais, je voulais revenir un petit peu sur l'élan en fait de soutien qui a entouré cette grève, parce que c'est vrai que sans ça, sans comprendre ça, on peut pas comprendre comment cette grève a pu tenir 45 jours avec autant de solidarité, 80 000 euros, on en parlait. Il faut savoir que en fait, c'est vrai qu'il y a une réussite dans cette grève qui, à mon avis, est à garder à l'esprit pour les prochaines grèves, c'est de comment toucher le plus largement possible des gens qui sont pas forcément au fait, mais comment réussir à les sensibiliser et leur faire comprendre en fait par des mots très simples sur quoi se base sur qu'en fait qu'ils sont concernés eux aussi par cette lutte pour de meilleures conditions de travail, etc.
Okay. Et, allez. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et donc, il y a quelque chose qui a été, déterminant. Ça a été, par exemple, le soutien de la dessinatrice Emma, qui, quand elle a pris connaissance de cette grève, a souhaité expliquer avec une BD, donc des dessins, des choses très simples, etc., quelles étaient les revendications. Et ça a, en fait, participé au fait que tout un secteur, beaucoup de féministes qui suivent cette dessinatrice féministe, etc., soient impactés par cette grève et le portent et relayent, etc. Donc c'est à partir de là qu'on a eu aussi une convergence qui s'est faite avec des féministes de l'assemblée MeToo qui sont venues sur le piquet, qui sont venues y compris faire des vidéos, etc. et qui se sont solidarisées avec cette grève. C'est aussi ça a été aussi la une tribune en fait qui est parue dans Libération d'intellectuels, de personnalités politiques, etc. qui se sont qui ont exprimé leur soutien. Dans Libération à cette grève contre la sous-traitance, contre les mauvaises conditions de travail à la SNCF, etc.
Ça vient pas tout seul, ça. Hein. Il y a un boulot pour se faire entendre quand même.
Voilà, donc c'est aussi toutes les initiatives qui ont été prises à partir du comité de soutien qui ont permis de percer cette sphère médiatique, quoi. C'est-à-dire qu'on a réussi en fait après la répression, etc., à avoir des vidéos qui avaient des milliers de vues, et pour y compris la vidéo qui racontait la grève, etc., qui est arrivée à un million de vues. C'est-à-dire que c'est une grève qui a réussi à sur les réseaux sociaux à viraliser et à se faire connaître et à porter en fait les revendications d'énormément de gens qui subissent ces mêmes conditions de travail. On voyait des gens qui commentaient les vidéos en disant « Allez-y, ne lâchez rien, parce que moi, c'est pareil, j'en peux plus de ces conditions de travail. » Enfin, parce que ça touche énormément de gens, les gens qui travaillent dans la sous-traitance ou dans le nettoyage. Et on voyait, en fait, s'exprimer ce prolétariat des quartiers populaires, des banlieues, etc., qui n'ont pas dont on n'entend pas forcément parler d'habitude dans les médias, et qui, tout d'un coup, prenaient la parole et s'identifier à cette grève. Donc ça, c'était vraiment très fort.
Oui, on aime bien discuter, juste un petit aparté de tactique dans cette émission, parce que c'est important. C'est comme le copain d'OFS qui nous parlait de, il cible spécifiquement des plages où ça va avoir un impact, où ça peut être, il faut savoir se faire entendre. C'est un vrai boulot, c'est une énorme portion de la réussite, effectivement, de pas rester isolé, et y compris de pas rester isolé entre mouvements. Il y a eu de la solidarité horizontale lors de ce mouvement, si j'ai bien compris.
Oui,
de gréviste à gréviste.
Tout à fait, c'est la solidarité qu'on a pu voir entre les grévistes d'Honnêt et ceux de l'Holiday Inn, donc de Clichy, qui sont en grève, eux, depuis maintenant 90 jours.
Enfin, c'est énorme.
C'est énorme.
Encore une lutte qui est en cours, d'ailleurs. Encore une lutte dans la sous-traitance, voilà. Encore aussi.
Je pense que c'est très important qu'il y ait une prise de conscience. Lors de cette grève, il y a une prise de conscience des grévistes, je pense, à énormément de niveaux. Mais aussi celle-là on partage les mêmes luttes, on partage les mêmes conditions de travail. Les mêmes dégradations de conditions de travail à travers la sous-traitance. Mm-hmm. À travers cet outil du patronat qu'est la sous-traitance pour faire baisser les conditions de travail. Et ça s'est exprimé dans des manifestations communes, ça s'est exprimé dans le fait que les grévistes d'Honnêt viennent sur le piquet de grève devant l'hôtel Clichy. Les grévistes d'Holiday Inn sont venus soutenir aussi au tribunal les grévistes d'Honnêt quand ils étaient attaqués par la SNCF. Et un fait qui pour moi est magnifique, c'est que bon, ces travailleurs pour qui quand même le paramètre financier est très important, parce que ils sont en grève, ils gagnent pas beaucoup, et puis ils se mettent en grève, ils font 45 jours de grève, bon ben ils sont pas payés, mais de leur caisse de grève, donc les grévistes d'Honnêt, ils ont reversé 1000 euros aux grévistes d'Holiday Inn pour qu'ils puissent tenir d'une caisse de grève à l'autre. Et cette conscience de classe là qui me paraît un élément essentiel en fait, parce que c'est en réunissant les luttes comme ça qu'on peut faire peur au patronat. Le patronat a très peur de la jonction des luttes. Et moi, je voulais ajouter quelque chose. Comment on a vu au travers de cette grève, les grévistes, ces gens qui sont des gens qui viennent des quartiers précaires, qui se connaissaient pas forcément entre eux, même sur leur lieu de travail. Comment ils ont évolué à travers la lutte. C'est vraiment vraiment magnifique. Au départ, simplement le fait de les, il y en avait qui voulaient pas qu'on les prenne en photo. Après, ils y ont pris goût, parce que voir que des gens s'intéressaient à eux, s'intéressaient à leur travail, s'intéressaient à leurs conditions de travail, pour eux c'était vraiment nouveau et magnifique. Se rendre compte aussi qu'ils peuvent avoir une voix et que les gens les écoutent. Que des journalistes viennent les interviewer, que des artistes comme Audrey Vernon, comme Emma, la dessinatrice, s'intéressent à leur lutte et les soutiennent. Tout ça, en fait, je pense, les a fait réellement avancer dans leur conscience. Et Et c'est ça reste pour eux. Enfin, moi pour moi, c'est quelque chose qui reste de cette grève, qui fait que c'est pas une grève finie. Ok, les négociations, on a gagné, il y a une victoire, on n'en parle plus. Non, il y a une suite à cette grève. C'est-à-dire que ces grévistes-là se sont rendus compte qu'ils ont gagné plus que leurs revendications, qui déjà dépassaient leurs revendications au départ de ce qu'ils demandaient. Mais en plus de ça, ils ont gagné une conscience qu'ils avaient un poids et qu'ils pouvaient lutter face au patronat et qu'ils pouvaient se lever et des précaires de chez les précaires faire plier le genou à un pépi, à un hachérénier d'honnête. Voilà. Et il disait dans les interviews, moi, avant, quand j'étais sur mon lieu de travail, bon, bah, quand un chef, le patron passait, enfin, je sais pas, je me cachais dans un coin. Voilà. Ouais. Et maintenant, non. Enfin, ils savent qu'il y a un rapport de force, qu'il y a, qu'ils peuvent se défendre face au patronat. Et je pense que, dans ce sens-là, cette grève-là, cette victoire est un exemple, en fait, pour tous les travailleurs. Et notamment face aux prochaines attaques de Macron qui vont pas manquer à arriver là, même s'il y a eu un premier round sur les ordonnances que Macron a réussi à passer. Mais là, l'année 2018, je pense, sera une année de lutte. Et il faut qu'on garde l'exemple de la détermination de ces travailleurs et de tout le parcours qu'ils ont fait au travers de cette lutte et comment ils ont grandi. Pour se donner du courage pour toutes les luttes à venir.
Ben, ça, c'est super. Tu as parlé d'Audrey Vernon. Il me semble qu'il y a peut-être une petite épilogue sympa, là, à nous raconter.
Hier soir.
Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Dites-nous.
En fait, donc Audrey Vernon, je sais pas si tout le monde la connaît, mais c'est une comédienne qui a fait une pièce qui s'appelle « Comment épouser un milliardaire ?». Et en fait, c'est une comédienne qui est souvent très solidaire des luttes, etc. Et pendant la grève, quand elle a pris connaissance de cette grève, elle avait déjà eu une initiative de solidarité qui était que lors d'un spectacle, elle avait à la fin du spectacle fait un message de salutation à la grève devant tous ses spectateurs et envoyé une vidéo comme ça de soutien aux grévistes. Et en fait, donc hier soir, elle jouait la 500e représentation de son spectacle à Paris au Théâtre Antoine. Et elle a souhaité inviter les grévistes à venir voir son spectacle. Donc elle avait invité une trentaine de grévistes à venir assister à son spectacle. Donc on y était hier soir. Et voilà, c'était un superbe moment où ils ont pu... Enfin, certains disaient, j'habite en France depuis 30 ans, c'est la première fois que je viens au théâtre. Et en plus... pour voilà un spectacle d'une telle qualité où en fait Audrey Vernon c'est quelqu'un qui est en plus assez sensible à la question de la maltraitance au travail et y compris chez les cheminots. Donc il y avait ce pont entre culture et solidarité avec des luttes qui a été fait et qui était un moment très émouvant hier soir.
Oui, il faut continuer. Alors c'est important, Tant que les gazelles n'auront pas d'historien, ce sont les lions qui écriront l'histoire. Donc c'est important de populariser, c'est important de raconter ces histoires. C'est pour ça aussi qu'on fait venir, on essaye de faire venir des histoires victorieuses aussi pour montrer que il y a des gens qui sont en cours, il y a des bagarres en cours. On a vu au Holiday Inn, au FS, il y a aussi des issues heureuses à ces bagarres. Hein. C'est important de le dire et de le rappeler et que ça se fait pas tout seul. Hein. C'est bien qu'on soit revenu sur les difficultés, les étapes, les efforts qu'il a fallu faire. Hein, parce que ça c'est assez important. Il faut toujours se dire on gagne rien sans rien, mais on peut gagner. C'est ça. On peut pas promettre autre chose que de la sueur et du sang et des larmes, mais par contre, on va dire comme Churchill, hein, la victoire au bout. C'est ça qui est important. Eh ben voilà. Alors ça c'était. Je sais pas si c'est la fin de notre épilogue. On va mettre une dernière pause musicale. One Man Night de Bob Powell. Ok, c'est cool.
Oh,
Ok, bon bah alors voilà, secret de fabrication, l'émission qui n'en finit plus. Nous avons encore regagné un petit rab pour faire quelques dernières petites annonces. Eh oui, vous n'êtes pas débarrassé de nous. Non, alors nous avions juste quelques petites choses à dire là-dessus. Encore, juste en dernier point, notamment une remarque sur la sous-traitance en général et son utilité.
Pour le patronat.
Oui, pour le patronat.
C'est aussi et surtout une manière de diviser en fait les travailleurs pour leur empêcher de s'organiser. On parlait de la façon dont Macron en fait attaque le droit du travail, mais aussi tout ce qui permet aux travailleurs de s'organiser en divisant les travailleurs dans des petites unités le plus petites possible pour justement avoir le moins de droits syndicaux, etc. Et là, c'était flagrant dans le sens où quand les cheminots ont pris connaissance de ce conflit et ont pris connaissance de cette grève, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un secteur de travailleurs qui était déjà organisé, y compris dans le même syndicat, c'est-à-dire que les cheminots de Sudrail ne connaissaient pas les syndicalistes de leurs sous-traitants qui étaient aussi chez Sudrail.
C'est ça, en fait. Il y avait une section Sudrail chez les nettoyeurs des gares, en fait.
Oui, et ils ne se connaissaient pas. Mmh. Donc ça a été aussi cette rencontre qui a permis de montrer à quel point, y compris au niveau syndical, le jeu de la sous-traitance pour diviser les travailleurs fonctionne, quoi. Mmh. Donc c'est ça aussi un des enseignements de cette grève, c'est réussir à tisser des liens pour avoir des grèves victorieuses. C'est déterminant.
Ouais. Comment la division fonctionne ou pas. D'ailleurs, en l'occurrence, là, ça n'a plutôt pas fonctionné parce qu'il y a pu avoir un lien avec l'intersyndical qui a été fait. Alors, c'est ça.
Oui, alors sur cette grève, il y avait Sudrail, mais il y avait aussi FO et la CFDT qui étaient présents. Dans une période où on voit que des fois c'est un peu difficile les intersyndicales là par exemple dans cette grève là il y a un élément déterminant qui a permis de tenir cette intersyndicale tout le long de la grève, c'était que on a trois syndicats qui étaient sur le piquet de grève pour conseiller les grévistes, pour parler avec eux, organiser des choses et tout. Mais le dernier mot, c'est les grévistes en AG qui l'avaient.
D'accord.
Donc, s'il pouvait y avoir des fois des différences d'appréciation sur la marche à suivre entre les différents syndicats, c'est les grévistes qui prenaient la décision.
D'accord.
Et ensuite, évidemment, les syndicats doivent suivre, puisque les syndicats avaient des syndiqués parmi les grévistes. Voilà. Et quand les travailleurs entre eux de la base prennent les décisions, tout le monde doit suivre. Et donc ce fait-là, le fait que ce soit l'auto-organisation des travailleurs qui prennent les décisions avec le conseil évidemment de leurs représentants syndicaux, etc., que ce soit eux qui mènent la lutte, a permis que tout le monde reste ensemble jusqu'au bout et que ce soit une lutte cohérente jusqu'au bout.
D'accord. Donc c'est ça. Alors donc la leçon, toujours commencer par s'auto-organiser, s'organiser entre nous. Et après, évidemment, on peut faire appel à toutes sortes de soutiens, conseils, tout ce qu'on veut. Mais la clé, c'est ça, hein, c'est se regrouper, s'organiser. Ce qui rejoint, et là c'est merveilleux, ce qui rejoint la discussion que nous avions au début sur la nature, on pourrait dire, naturelle, inhérente à la classe ouvrière, de s'organiser en conseil pour mener ses luttes, faire face à ses problèmes et avancer ses revendications. Voilà, donc et oui, on sait ce qu'on fait dans cette émission, hein, même si des fois on déborde un peu, la preuve. Je vous invite à continuer à nous suivre tous les troisièmes vendredis chaque mois. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Alors,
au revoir.
Bonne soirée.
Pour tous ceux qui en ont marre des feuilles de salade coincées dans les roues du caddie. 1, 2, 3, 4. Constamment matraqué. On ne peut pas passer à côté de la publicité. À la radio ou à la télé, on te crée des besoins d'aucune nécessité. Un seul but, te faire payer. Quand tu te promènes dans les rayons du gros supermarché, tous les samedis, tu vas t'enfermer. Pousser ton caddie, éviter ton porte-monnaie. Tu cherches sur